France Inter.
C'est la bande originale, figurez-vous, avec Leïla Kadour-Boudadi, avec Lisa Delmoitier. Avec Camille Lavabre.
Bonjour.
C'est pas Emma Beaujean, c'est l'autre. Amandine Londel. Tanguy Pastureau. Aldelave.
Et bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Londel.
Et nos invités. Dominique Raymond aussi. Et William McGill.
Oui. France Inter. La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Dominique, bienvenue William, merci mille fois
merci.
De venir nous présenter cette œuvre d'art, cette cache,
ouais, ce petit bijou,
cette poésie et puis cette grande émotion dernier film porté par Michel Blanc, où il joue le rôle d'un grand-père dans la transmission avec son petit-fils, avec des scènes absolument bouleversantes. Comment ça va Dominique d'abord ?
Ça va bien, je vous remercie.
Vous savez qu'on est extrêmement... Autant William on s'en fout, autant vous on adore.
Dès
que vous soyez là.
Vraiment.
Je viens pas souvent.
C'est la première fois.
Même jamais, oui.
C'est quasiment la première fois.
Alors que William, lui, même quand il a rien, il vient.
Oui, une fois, il a pas voulu ressortir.
On est obligé de le raccompagner. À propos de cache, petit tour de table, si vous avez des souvenirs lorsque vous étiez petite ou petit, d'une cachette d'enfant. Lisa Desmoitiers, tu te cachais où à la maison ou à cache-cache?
Moi, je sais que je voulais toujours me cacher dans la cave, mais après, ça me faisait peur.
Ah, et donc, Belgique.
Tu salis tout, Daniel, tout le temps.
C'était un peu pour dire ça, c'était qu'après, j'avais pas le courage de rester dans la cave parce que ça me faisait trop peur, en fait. Donc, je ressortais avant qu'on me trouve. Donc, voilà.
Camille Lavab, tu te cachais ou pas?
Ouais, dans mon lit, persuadée que j'étais bien cachée, mais.
Ah, mais voilà. C'est genre, tu mets une serviette sur la tête, tu dis je suis où?
Exactement.
Ça, c'était très petite, la semaine dernière.
Non, ouais, c'est avant-hier.
Amandine?
Bah, derrière la porte. Ça marche pas tout le temps, mais bon, parfois, ça marche.
Et vous avez, Léla, t'as pas une cachette de dingue?
Des placards, parfois, où c'est pas simple de rentrer, et donc pas simple de sortir. Où on te trouve pas vraiment, mais sinon derrière les rideaux aussi, mais avec les pieds qui dépassent.
Et pourquoi ce cachette? Alors moi, je m'étais caché dans un... Comment ça s'appelle? Ça a sûrement un nom... un placard sous l'escalier.
Harry Potter.
Dans une maison, genre, ouais. Une maison de vacances, et je voulais faire croire à mes parents que j'avais fugué. Et je voulais leur faire peur, donc c'était en plein milieu de la nuit, j'étais me planquer là-dedans en disant...
Faisant l'attention déjà.
Exactement.
Et ils s'en sont pas rendus compte.
Eh ben, c'est-à-dire que vu ce que mon père m'a mis derrière, je pense qu'il s'en est bien rendu compte, il m'a bien trouvé. Mais c'était la cache qui n'a pas du tout fonctionné. Daniel ?
Petit, je me cachais derrière les arbres, mais j'avais l'impression que si je voyais pas les gens, ils me voyaient pas.
Ouais.
Alors on me voyait vraiment.
Bah, évidemment.
Oui. C'était
comme,
ridicule.
Comme pour les paparazzi.
C'est ça. Pareil.
Tanguy, pas sûr.
Moi, c'était dans les arbres, j'habitais à la campagne avec des copains, on avait fait une super cabane, une grosse cabane.
Classe.
Et j'ai passé ma vie, j'étais assez inspiré par le dessin animé Tom Sawyer à l'époque, avec Laurie Finn qui montait en haut de sa cabane, j'adorais ça. Et voilà, je passais des heures dans ma cabane en fait.
C'était en Nouvelle-Orléans, dans le...
Au bord du Mississippi, ouais.
C'est ça,
dans le petit village.
Ouais. Aldelave ?
Eh bien moi, pareil que Tanguy, c'était dans les arbres, en haut des cerisiers pour regarder le monde. Et c'était bizarre d'arriver à un enfant mal caché au pied de l'arbre qui s'appelait Daniel. mais vraiment, pas quand je me cachais.
Il était surpris que tu le vois en fait.
Très surpris. Ouais.
Dominique, est-ce que vous vous cachiez
quand je réfléchis là depuis tout à l'heure comme une dingue à ce que je vais dire.
Forcément une cachette, bah oui.
Oui, alors la cachette, la première idée qui me vient, c'est que j'étais dans une chambre avec ma cousine, on éteignait tout, et en fait on se cachait pas, mais on était juste debout quelque part dans la pièce.
Sans se voir.
Ouais. Et l'autre arrivait, il cherchait, tâtonnait, parlait, etc. Et on devait surtout pas bouger au milieu de la pièce ou dans un coin. Et ce qui provoquait évidemment des fous rires épouvantables. Et on était tout de suite démasqués, quoi.
William, vous êtes celui qui est le plus réfléchi de tous autour de cette table pour avoir sa cachette.
Faut pas effectivement, nous décevoir. J'ai une réponse géniale.
attends. Zéro pression.
Là, il y avait une chambre chez mes grands-parents avec il y avait un placard avec toutes les chemises de mon grand-père. Il y avait un double fond. Et
oh, wow.
Mais non,
ça c'est comme
dans le film.
Exactement.
Pourquoi ils avaient ça? C'est ça qui m'intéresse.
Bah, ça, je sais pas trop. Mais en fait, c'est parce que mon grand-père il a construit lui-même sa maison. Ah, du coup, ça devait être
un truc qu'il
avait. Planquer des choses. Ouais.
Non, mais c'est génial.
Ou des gens à certaines époques. Il y a des gens qui sont planqués longtemps. quand même dans des placards.
Bah, trucs à l'ouvrir, bien sûr.
Voilà. Ou sous un escalier, un chat est-il caché ou pas sous un escalier? Ce sont les premières images de ce petit enfant qui entend des chats et cette phrase formidable de Michel Blanc qui lui dit mais si tu l'entends, c'est qu'il existe. Ouais. Et toute la poésie est installée dans ce film signé Lionel Bayer qui sort aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, voici Oldelaf qui est totalement fan. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
Qui est fan?
C'est juste Oldelaf.
J'aime bien les jingles.
C'est parti. Ouais. C'est pas.
Quelqu'un est énervé?
Il provoque des courts-circuits.
J'en ai pas d'autres, si vous voulez. D'accord, ok. Dominique et William, voici Oldelaf.
Oui, oui.
Non, on va pas le faire à chaque fois. C'est un moment où.
Non, je trouve ça crée une ambiance.
Mais c'est bien, moi j'aime bien ce jingle. Allez, Oldelaf, à toi, mon chat.
On coupera au montage.
Allez.
Je suis fan de William Lemgill. Je suis fan encore plus que de William Lemergill. Je vous fais une confidence, je connais votre secret de jeunesse. Vous chantiez avec des lunettes, vous étiez Jean Schultes. Je suis fan de Dominique Raymond. Pas si suisse, ce que ça faisait, mais elle sait faire sensation. Vous êtes comédienne, mais avant d'être une star, vous aviez votre propre bistrot, le Raymond Bar. Et vous êtes là ensemble pour le film La Cache. C'est le dernier film de Michel Blanc que je sache. Ça me fait vraiment peur, le cinéma semblant. C'est triste, c'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Ouais, je suis fan du film La Cache, qui parle d'une famille mi-juive, bien vu le titre Nakache. Ils se planquent pendant la révolte de mai 68, car ils ont un jeune enfant, il faut fuir Cohn Bendit. Je suis fan de Oui Oui et Dodo, enfin William et Dominique dans le film des héros. Ouais, Dominique, Nick, dans le film, c'est des mères grands, c'est grand-mère en verlan. En tout chemin, en tout lieu, elle a peur des gens trop vieux, y en a un près d'elle affreux. Daniel, niel, a un corps impressionnant. Il pourrait être allemand. S'il vous fait vraiment trop peur, pas de panique, j'ai un taser. William est sauveteur. Ouais, William, miam, a un doute maintenant. Qu'est-ce qu'il faut là vraiment? Il est venu pour la promo, il se retrouve chez les Gaulieux. La faute à nos os. Ouais. Ouais, la, les responsables de tout ça. C'est notre émission de Gugus qui avait inspiré Artus pour un petit truc en plus. Ouais, vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Oldelaf sur scène demain à Massy, samedi à Toulouse, le 10 mai à l'Olympia, mais on s'en fout puisque tout est complet.
Non.
Jingle.
Merci, bravo Oldelaf. C'était super Oldelaf.
Moi aussi. Bien, hein.
C'est long.
Parlons de ce film, La Cache, qui est en salle aujourd'hui, le 19 mars, de Lionel Bayer et de cette famille, en fait, qui nous est donnée à rencontrer à travers les yeux de ce petit garçon, Dominique. Une famille assez étonnante.
Oui, c'est la famille Boltanski. Je crois que dans
Christophe
le livre,
sera Christophe, tout à l'heure, oui.
Christophe Boltanski, qui est donc le petit garçon. Oui. Et donc tout est vrai. Tout est absolument vrai dans le livre.
Oui.
Et c'est l'histoire d'un gamin qui se cache au moment des événements de mai 68.
C'est l'histoire du père qui se cache pendant la guerre.
Quand il est enfant.
Non, quand il est...
Quel père vous parlez? Vous parlez de Michel Blanc?
Oui, Michel Blanc.
Du grand-père. On est à plusieurs époques.
Il y a plein de générations.
Michel Blanc, c'est... Donc, le rôle de Michel Blanc, il se cache. Il se cache donc à l'époque de la guerre, donc 1945. Et ensuite, le film se passe dans les années donc 68. Mais 68, à ce moment-là, c'est... Le gamin qui découvre
la cache.
Cette cache.
Cette fameuse cache. Voilà. Donc on est tout d'un coup dans une famille, plein de générations réunies sous le même toit. Une famille alors qui est difficile à décrire tellement elle est très différente de la norme entre guillemets de ce que on pourrait avoir l'habitude de voir. Ce petit garçon en fait il a des parents mais c'est des parents militants très occupés à militer contre la guerre, contre et là contre le pouvoir en place, qui est souvent confié aux grands-parents qui vivent avec leurs enfants encore dans cet appartement rue de Grenelle. Vous êtes l'un des fils, William. Ouais. Vous êtes le linguiste, vous êtes le sémiologue, vous êtes une sorte d'intellectuel complètement perché qui discute chaque mot et qui fait émerger, comme par magie, du sens et de la politique partout.
Oui, c'est ça. C'était un rôle génial à appréhender, franchement. Ouais. C'était. Alors, au départ, je comprenais pas tout. mais c'est fascinant, vraiment, la linguistique.
Mais ça veut dire quoi, je comprenais pas tout?
Bah, c'est très compliqué en fait. Déjà, rien que de comprendre ce que c'est que la linguistique, c'est l'étude scientifique des mots, donc c'est vraiment quelque chose de dont on n'a pas l'habitude.
Et des silences dans le film, c'est aussi un moment clé, un moment historique.
Tout à fait.
Puisqu'il y a le général de Gaulle, on va pas, on peut le dire sans quand même.
La surprise.
En tout cas, voilà. Y a des choses qu'on peut. Alors si il y a des choses qu'il ne faut pas dire, dites-le vite.
Ben voilà, on vient de vous le dire.
On n'a pas dit l'influence qu'il avait eue sur le cours de l'histoire ou sur ces rencontres-là. Mais c'est vrai que cette planque, cette cache, fait fantasmer. Dès qu'il y a une cache, on imagine des trésors, on imagine des choses totalement, peut-être même interdites.
Ouais, alors que là, clairement, c'est l'endroit où le père, donc Étienne Boltanski, s'est caché. Il s'est caché pendant, je sais pas, à peu près 2 ans, donc sous le plancher, pendant l'occupation allemande. Et donc là, ça se passe en 68, et il y a un peu tout qui ressurgit, quoi. Ouais. Tous les traumatismes, c'est tous les stigmates de cette violence qui ressurgissent pendant ces événements.
Ouais, d'autant que c'est un médecin, il est bienveillant, il est...
Oui, mais il a peur du sang.
Ça ne dit pas rien, le pauvre. Mais il est spécialiste de la médecine scolaire. Le rapport, la transmission qu'il y a entre ce grand-père et le petit-fils est absolument bouleversante.
Ouais, totalement.
Très poétique. Ouais. Bouleversante.
Ouais, c'est très beau.
Et puis il y a l'arrière-grand-mère. Les arrière-grand-mères, parce qu'elles ont, je sais pas combien de prénoms dans le.
Ah, arrière-pays, elle s'appelle.
Ouais. Arrière-pays, ça c'est
Liliane Revers. Ouais. La merveilleuse Liliane Revers.
Qui vient d'Odessa, qui donc reconnecte avec les origines russes. Mm. Et ça a un sens important dans le film d'ailleurs, qui est cette grand-mère qu'on rêve d'avoir en fait, qui est installée dans sa pièce, comme ça, qui écoute sa musique, qui fume des clopes, qui a l'air complètement. On est en plein mai 68, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une forme de permissivité. Où l'enfant navigue de génération en génération selon la pièce de la maison où il se trouve, en fait.
Oui, c'est ça. Ils se sentent très bien auprès de cette arrière-grand-mère. Ils ont un vrai contact, une vraie complicité tous les deux. Elle lui donne des habits à un moment donné.
Elle l'habille,
lui apprend à nager. elle veut même le faire fumer, boire. Enfin, c'est le rapport idéal d'un enfant. Sa grand-mère, c'est pas sa grand-mère, c'est son arrière-grand-mère.
C'est l'arrière-grand-mère, parce que la grand-mère, c'est vous.
Bah ouais, la grand-mère, c'est
vous. Oui, même si il ne doit pas vous appeler comme ça en public.
Non, justement, elle veut pas, non.
Et vous êtes une femme étonnante, en tout cas le personnage que vous incarnez, c'est cette femme qui est au volant, déjà on la voit majoritairement au volant de sa voiture, et une femme qui...
Une amie 6,
en réalité dans le livre c'est une Fiat 500,
d'accord.
Mais Lionel Bayer avait une amie 6, donc on a pris l'amie 6 qui avait pas mal aussi, mais enfin il y avait des difficultés pour la faire démarrer, et surtout elle calait tout le temps, enfin c'était un vrai problème.
Pas de difficulté pour claquer les portes, parce qu'il y a un vrai rythme et un vrai son donné par ces portes qui claquent en permanence,
et en
commençant par une exposition.
L'exposition de Christian Boltanski, en fait, dans ses débuts. Et elle fait absolument tout pour promouvoir l'œuvre de son fils. Et
jusqu'à coller des affiches de manière illégale, jusqu'à impliquer toute la famille.
Elle conduit la voiture pour que tout le monde colle des affiches sur mai 68 et sur l'exposition. Enfin, elle est très active, cette grand-mère.
Et dangereuse avec sa canne.
Handicap, ouais. Avec sa canne, elle peut éventuellement taper les chauffards qui ne la laissent pas traverser la rue.
Et malgré d'où elle vient, sa condition sociale, son extraction sociale, c'est-à-dire qu'elle est aux antipodes de là où elle a grandi. Elle vient d'un milieu plutôt bourgeois, plutôt rigoriste. Et là, oui. on est face à une femme qui va recueillir la parole de la population dominante, en tout cas, de l'ouvrier, du salarié. Et elle collecte comme ça.
Oui, elle collecte toutes ces confidences de gens, effectivement, qui sont un petit peu laissés pour compte. Et c'est assez beau, d'ailleurs, ce militantisme de cette femme qui est très bourgeoise, mais qui, néanmoins, quand même, va recueillir la parole, enfin, très active.
Cette fable, cette histoire vraie quand même, mais qui est tournée comme une fable, comme on se demande à quel moment, si on est dans une réalité et dans quelle temporalité on est situé, elle explique quoi de l'humanité de cette famille pour vous, William Lebgill?
Bah moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans le film, c'est justement cette chose quand les gens ont vécu des traumatismes et des horreurs. Qui en apparence, ils sont très légers, il y a beaucoup d'humour, il y a une espèce d'élégance en fait de ne pas entrer dans le pathos et en fait justement de garder la face finalement.
Et de se purifier de tous ces malheurs. Quoi.
Exactement, c'est ça. Ça, moi, ça me bouleverse. Je trouve ça vraiment trop beau. Quoi.
Et on sent que le langage dans cette famille est hyper important. C'est-à-dire qu'ils se réapproprient par le langage, par leur façon de dialoguer sans cesse, de tout questionner. Aussi une forme de, je sais pas, d'espace qui leur appartient à eux, une forme de liberté, une sorte de royaume. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film par sa poésie, par sa dimension. On est entre l'univers d'un Boris Vian. On pourrait penser à l'écume des jours à certains moments, à quelque chose de complètement doux et rêveur. Et en même temps, on sent que c'est là que les choses commence en fait avec cet enfant qui est tout petit et qui grandit en voyant ces figures complètement magiques. En fait, on en arrive presque à être jaloux de ce petit garçon. C'est vrai.
Ça sort aujourd'hui au cinéma ce film La Cache. Alors Leïla en a très bien parlé. Il y en a une qui est pas du tout d'accord avec Leïla. C'est Lisa Delmoitie. Parce que Lisa, tu n'aurais pas fait ce film comme ça, toi.
Énorme confusion. Pour les Français, mai 68, c'est une révolution étudiante. C'est pour moi, ça a toujours été juste la naissance de Kylie Minogue. Donc, que reste le titre de votre mai 68, je ne sais pas, mais Can't Get You Out of My Head, ça n'a pas pris une ride. Hein. Voilà, on n'a pas les mêmes repères historiques. Mais le mai 68 dont parle le film La Cache, c'est bien sûr celui des révoltes des étudiants se battant contre l'autorité d'une société austère, patriarcale. Les jeunes d'il y a 60 ans, ils demandaient de pouvoir vivre libre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pouvoir vivre libre. Alors que les jeunes d'aujourd'hui font quoi? Ils demandent de pouvoir vivre. C'est possible de continuer à faire ça, Trump, Poutine et Netanyahou? Ok, top, merci. Je vous avoue que je ne suis pas plus familière que ça de l'héritage de cette époque. Mes parents étaient enfants en 68. La seule 68arde que j'ai rencontrée, c'est Jacqueline, 77 ans, rencontrée en bar PMU, qui m'a dit « Ah ouais, 68, l'année où j'ai fait un plan à 3 sous acide. Bon, » c'est vrai qu'elle m'a convaincue de l'importance du mouvement. Mais sans idéaliser une époque révolue, il ne faut pas sous-estimer quand même l'impact de ces révoltes sur notre vie actuelle. Ça a notamment laissé comme trace qu'on est conscient collectivement de notre droit à remettre l'autorité en question. D'ailleurs, Nagui, si t'interromps les gens, tu vas te prendre un pavé dans la gueule. Voilà.
Direct.
Bon, faut savoir que Nagui est végétarien, donc pour le traumatiser, inutile de défoncer une route, tu peux juste lui balancer un pavé de bœuf. Ou les deux, si t'as une préférence pour l'ambiance révolte terre et mer. Mais enfin. Mais c'est fou parce qu'aujourd'hui, il y a des vieux qui ont connu mai 68 et qui critiquent la jeunesse d'aujourd'hui. Je trouve ça affligeant. En même temps, il y a quelque chose de rassurant, à savoir que dans ce monde incertain, instable, une seule certitude, tout le monde finit vieux con. Et moi, j'aime bien les choses qui ne changent pas. Voilà, ça, c'est pour l'époque, mais ce film parle surtout d'une famille, celle de vos deux personnages, Dominique et William. William, vous y êtes linguiste, on l'a dit. Alors, à quoi reconnaît-on un linguiste? C'est un mec hyper cultivé, hyper intéressant, à côté de qui t'espères ne pas être assis en soirée. Tu savais que le mot le plus long au monde est anglais? Il s'agit de pneumonultramicroscopixkilocolvolanoconiosis. Tu savais ça?
Et c'est vrai?
Non, oui, c'est vrai. Bon, je l'ai peut-être mal prononcé. Mais...
Non, c'est super.
Tu savais ça, Lisa? Non, William, je ne savais pas, non. Je t'explique, il est 23h, on est samedi soir. À la base, j'étais juste venue pour danser sur du Kylie Minogue, en fait. Pour être précis, vous êtes linguiste diachronique. Donc, vous étudiez l'évolution de la langue à travers les époques. Vous allez donc nous expliquer ce matin sur France Inter pourquoi, avant, on s'appelait tous camarades, amis, et maintenant, on est tous des frérots. Que s'est-il passé linguistiquement, William? On a entendu une explication. Et cette famille, son histoire s'articule autour d'une cache, et je crois que dans toutes les familles, il y a une cache qui abrite des secrets. Dans une famille juive qui a dû se cacher, c'est souvent un endroit symbolisant l'héritage de la Shoah, bien sûr. Mais chez moi, c'est une cave à vin, symbolisant l'héritage alcoolique de la dynastie. Et il y a une pudeur dans cette famille à évoquer les événements dont ils portent encore les stigmates. Les mots Shoah, Holocauste ne sont pas prononcés, on privilégie les moments de partage et de joie. Et chez moi aussi, beaucoup de soirées, beaucoup de joie, mais très peu de mentions de la cirrhose du foie. Une espèce de tabou. Donc vive les familles et leur pudeur, et pour éviter que William nous parle linguistique, je propose de finir en musique.
Gagné, gagné, bravo.
Le film réunit donc nos invités, évidemment, Dominique Raymond et William Lebguil, Aurélien Gabrielli, Liliane Rovert, Ethan Chimienti, Adrien Barazone, Larisa Faber, Gilles Privat et Michel Blanc. C'est-à-dire que toute la poésie, toute l'émotion, toute la transmission, toute la bienveillance dans le regard, l'interprétation de Michel Blanc est évidemment encore plus bouleversante, et le film lui est dédié. Ça, évidemment, ça a été un choc pour nous tous, mais de le revoir là encore jouer si juste, d'une manière si émouvante. Que dire, William ? Il est sur toutes les affiches, il est, il ressort en plus dans, avec intelligence dans cette affiche. A été, j'imagine, créée après son triste départ, mais c'est bouleversant.
Ouais, c'est bouleversant. Puis c'est, je sais pas, enfin, c'était très soudain, et puis c'était il y a pas si longtemps en fait. Donc, il y a quand même, enfin, il y a, je pense, quelque chose que on partage un peu tous dans l'équipe, c'est de pas vraiment y croire, quoi. En tout cas, c'est le fait que même en revoyant le film, enfin en le découvrant surtout à Berlin, il y avait une espèce de chose à la fin où, je sais pas, moi je me disais, ah mais non, mais en fait il est là toujours. On sait pas, il est pas venu à l'avant-première, mais il est là.
Caché.
Est-ce que la scène de fin que l'on ne va pas dévoiler était celle qui était prévue?
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Okay. Non, parce qu'elle est, voilà, elle est dingue. Mmh. Elle est dingue, dingue, dingue. On peut pas retenir ses larmes quand on voit cette scène.
Et il est hilarant.
Oui. Et ouais, et puis touchant, et puis complice. Enfin voilà, c'est le. Tout à l'heure, tu disais la grand-mère et le grand-père qu'on a envie d'avoir, avec tous les excès, la permissivité qu'il peut y avoir aussi. Souvent, les grands-parents disent, tes parents ne veulent pas que tu fasses ça, mais moi, je vais t'autoriser à le faire, quelle que soit l'idée, ça soit des sucreries jusqu'à des risques politiques. Quel souvenir, Dominique Raymond, gardez-vous des scènes nombreuses que vous avez avec Michel Blanc?
Ben forcément, maintenant, avec le recul, tout ça est très bouleversant, bien sûr. Après, sur le tournage, c'est pas quelqu'un à qui je tapais dans le dos, on se faisait pas la bise, on se tutoyait pas vraiment. Et donc, il y avait une grande pudeur entre nous, et je le connaissais pas, j'avais pas vu tous ses films, donc j'étais pas intimidée non plus, mais il y avait quand même... oui, parce que si j'avais vu tous ses films, je pense que j'aurais été très intimidée, j'aurais même pas pu jouer avec lui. Donc j'étais assez contente d'avoir pas vu sa longue biographie et filmographie, pardon. Et donc les scènes étaient très pudiques entre nous. Il faisait ce qu'il avait à faire, on faisait ce qu'on avait à faire, mais on pensait pas que finalement, au résultat, il y a quand même une histoire qui a l'air d'exister malgré tout. Et moi, ce dont je me souviens, j'ai encore parlé de toi, William, c'est que bon, quand William était là, Michel était très heureux. Et c'était quelqu'un d'assez angoissé, on peut le dire, assez inquiet, c'est quelqu'un de profondément inquiet, en fait. C'est ça qui me plaisait beaucoup chez lui, d'ailleurs, c'était cette profondeur, cette inquiétude. On était quand même assez loin de, je sais pas, des bronzés ou des choses comme ça, quoi. Il était vraiment très, très profond, en fait. Et du coup, ça, c'était assez bouleversant. Mais quand William rentrait dans la pièce, son sourire s'éclairait, c'était magnifique, il l'aimait vraiment. L'amour. Quoi. Et du coup, on était toujours contents quand il y avait William. Et là, parce que, du coup,
c'est l'effet voilà. William.
Après, nous, on se parlait assez peu. Hein. Moi, je suis un peu réservée, on va dire. Lui aussi, d'ailleurs, complètement, avec les femmes, peut-être plus.
C'est pour ça que vous formiez un joli couple.
Ben oui, parce que finalement, ça existe quand même. Ben oui. Rien que d'en parler, je suis rouge. Bon, c'est affreux.
Ça va, on est à la radio.
Voilà, une fois, je me suis lancée, j'ai osé lui toucher l'épaule, me dire bonjour, cher ami. J'ai dit,
oh là là.
Voilà, je me suis carrément lancée.
Parce qu'il y avait le vouvoiement était de rigueur.
Pardon ?
Le vouvoiement était de rigueur ?
Non, pas du tout, mais c'est moi qui, naturellement, quand je connais pas les gens, disons, je vous vois.
Ambiance de 68, on se touche.
Et puis un jour, il y a quand même eu un moment où on était tous les deux seuls, au milieu de l'équipe, mais seuls, parce qu'on n'était plus forcément dans ce groupe familiale de chaque jour, hein, où moi, voilà, c'était très bien. Et on était tous les deux, et là, bon, ben, je me suis... Enfin, tout à coup, j'étais toute seule avec lui, quoi. On était assis sur nos chaises, il n'y a pas nos noms derrière, mais y avait... on était assis sur les chaises, on attendait de tourner, et là, il a commencé à me raconter des choses de lui, enfin, de sa femme, de la brocante, enfin, des objets qu'elle trouvait. Enfin, alors là, je recueillais tout avec beaucoup de... d'intérêt et je garde cette journée unique comme un joli cadeau quoi.
Bon souvenir. Joli cadeau en tout cas que vous nous faites de venir parler de ce film. Lionel Bayer en est le réalisateur. C'est l'histoire de Christophe Boltanski qui sera avec nous tout à l'heure. C'est une mise en abîme même de la naissance du livre qu'il a écrit et qui a initié cette adaptation au cinéma.
Et c'est un très beau film.
Et c'est un voyage également dans une famille. C'est un voyage dans le temps, dans une époque, dans des tensions, dans des guerres, dans le nazisme. L'antisémitisme, la délation des voisins, il y a tous ces moments que l'on revit quand on dit une cache, ça peut être une cache d'enfant, ça peut être une cache de trésor, ça peut être une cache pour sauver des vies, on entend tout avec ce raisonnement-là. Et puis parmi ces voyages, il y a aussi la culture qui nous permet de réentendre par exemple la voix de Jean-Yann.
Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus a donc ces comiques, inventer le ski nautique. Alléluia, alléluia.
Il est interdit d'interdire.
Bah oui, évidemment. C'est d'ailleurs Jésus-Christ est le premier à avoir inventé le ski nautique. Voilà, c'était les vannes et la folie de Jean-Yann.
Donc dans le film, c'est quasiment d'ailleurs un clip sur cette chanson. C'est vraiment
tout monde danse.
Chorégraphie, c'est hyper mignon.
Ouais.
On en parle jusqu'à midi et demi justement de cette cache qui sort aujourd'hui au cinéma. Voici Amandine Lourdel.
Salut à tous. Je vous parle des voyages aussi parce que, écoutez, là, je me remets doucement. Je reviens, le week-end dernier, j'ai fait un trek avec une copine. Alors, pour ceux qui savent pas, un trek, c'est comme une randonnée, mais pour les gens qui se la pètent. Et qui estiment que quand on met un SMIC dans du matos, on a le droit de prononcer l'activité en anglais. Moi, ce que j'aime en rando, c'est qu'une fois que tu te retrouves face à l'immensité, ça permet de te rappeler que dans la vie, il ne faut pas organiser quoi que ce soit après deux bouteilles de blanc. Pour vous dire à quel point j'aime la rando, il y a 10 ans, j'ai fait le GR20, et franchement, j'ai tellement pleuré toute la semaine qu'après, à chaque fois que quelqu'un me demandait « Alors, c'est comment la Corse ?» je répondais « Bah, flou. Voilà. » Une autre fois, j'ai fait la Soufrière en Guadeloupe, et ben j'ai compris pourquoi ça s'appelle la Soufrière. Ben, parce que tu souffres. Voilà. Tu souffres hier, tu souffres aujourd'hui, tu souffres mardi en 8, tu souffres tout le temps. Et alors, ce qui est vraiment super avec la Soufrière, c'est que quand t'es en face, tu la vois pas parce qu'il y a tout le temps des nuages, et quand t'es dessus, bah, tu vois rien parce qu'il y a tout le temps des nuages. C'est comme monter des grands escaliers réfrigérés dans lesquels un régisseur aurait mis plein de machines à fumer. Ben quoi, c'est vachement cool la machine à fumer. Bon, déjà, vendredi, avant le départ, je vais m'acheter des chaussures de rando parce que mon ex m'a jamais rendu les miennes. Je te préviens Sébastien, tu peux t'asseoir sur la pompe de ton gonfleur à matelas. Chaussures qui m'ont coûté tellement cher. Quand je suis sortie du vieux campeur, je me suis dit, à ce prix là j'espère que c'est du champagne qui va sortir de mes ampoules. Parenthèse, sortir du vieux campeur, c'est pas une métaphore pour parler d'un rapport en tente avec un retraité de l'éducation nationale. C'est un magasin pour les sports de plein air en tout genre. Et franchement, ce week-end, ça m'a rappelé que quand tu suis quelqu'un qui est très expérimenté dans quelque chose, quand toi tu l'es pas du tout, et ben tu subis un peu l'activité. Surtout que là, ma pote, quand on a dépassé une certaine altitude, elle est devenue une toute autre personne. Une randonneuse qui faisait vraiment littéralement corps avec la montagne. Plus aucune hygiène, elle buvait dans les flaques d'eau, elle voulait qu'on se frotte à des troncs d'arbres. Alors t'as chopé ce week-end ? Ouais, j'ai chopé la maladie de Lyme. À 300 mètres de dénivelé, je me suis rendu compte que j'étais partie avec une copine, mais que j'allais passer le reste du week-end avec un cerf vidé. À un moment, elle part faire ses besoins derrière un petit rocher à flanc de crête. Elle est restée 20 minutes, je commençais à m'inquiéter. Elle me dit « Ah bah désolé, je pensais que c'était pour le gîte, mais en fait, il y avait aussi le couvert. » En plus, j'ai dû m'essuyer avec des feuilles, mais comme il n'y a que des sapins autour, ça m'a pris pas mal de temps. Après ça, je trébuche, tu vois, je shoote dans une grosse pierre. Là, elle se retourne, elle me dit « Chut, il faut pas déranger la montagne. » Je peux te dire que là, t'es content d'avoir téléchargé Petit Bambou. Hein. Parce que si t'as pas validé ton premier pétale sur la fleur de lotus de la paix intérieure, eh ben, grand-mère feuillage, tu la lapides jusqu'à obtention d'un civet de chevreuil. Et apparemment, le projet, c'était de se nourrir uniquement avec ce que la nature a à nous offrir. Mais comme elle garde quand même un instinct plus proche de l'ARH qui va au self tous les midis que du bouquetin, elle a juste récolté des baies non comestibles, des champignons probablement mortels et des jeunes pousses arrosées du pipi de ses congénères. J'y dis donc, Bambi, j'espère que t'as mis de l'imodium dans ta banane. Hein. Parce que là, avec ton panier anti-gaspi forestier, on risque de devoir te faire piquer en rentrant au refuge. Je te rappelle que tu t'es quand même mise en arrêt maladie après le mariage d'Annabelle parce que t'as mis 3 jours à digérer le plat de résistance. Ah, bon, pour sa défense, Annabelle, elle est champenoise et comme elle s'est mariée avec un Mexicain, ils ont essayé de faire un menu à l'image de la mixité de leur couple. Ce qui fait qu'on a eu droit à des burritos à l'andouillette gratinée au chaourme, à la salsa picante. Prends-toi ça dans les dents, Pierre Sang. Et entre ça et les margaritas à la prunelle de Troyes en cocktail de bienvenue, c'était de la cuisine fusion. Mais la fusion, elle a surtout eu lieu entre le postérieur des convives et la cuvelle des toilettes de la salle polyvalente de Cussangy. Ah, bon, moi, ça a été, je digère tout, globalement. Hein. D'ailleurs, quand j'habitais encore dans l'Aube, tout le monde m'appelait le trou champenois. Bon, et aussi à cause d'une autre histoire, mais je vous raconterai une autre.
Oui, c'est gentil.
Surtout que là, pour me convaincre d'y aller faire ce trek, l'argument principal, c'était qu'on prenait un Sherpa pour nous aider à porter toutes nos affaires. Sauf que bon, c'était son premier jour, au gars. Et Sherpa, il n'y a pas vraiment de formation, t'apprends un peu sur le tas. Et le mec galérait, franchement. Alors moi, pour être sympa, j'ai commencé à prendre un sac pour le soulager, et puis après, j'ai pris un autre sac, et puis au bout d'une heure et quart de rando, je suis littéralement devenu le Sherpa du Sherpa, quoi. Je peux vous dire, les 2 jours en montagne avec un Sherpa stagiaire et un chamois diarrhéique, je m'en souviendrai. Rappelez-moi d'y pas y aller la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Amandine Lourdel.
Amandine sur scène tous les mardis à la Comédie de Paris, et le 26, elle sera à Vienne.
L'histoire de Christophe, donc, qui vit les événements de mai 68 planqué chez ses grands-parents dans l'appartement familial où tout le monde est là. Hein. Oncle, arrière, grand-mère, tous sont dans différentes pièces. Et c'est justement aussi un jeu de cache-cache dans l'appartement. Chaque endroit a son secret, a sa vie, a ses ondes et ses vibrations. Ça, ce qu'on entend, c'est la musique du film. Il y a des références également. Ça, c'est la musique créée pour le film, mais il y a aussi cette variation signée Brahms.
Il y a du Prokofiev pour la grand-mère.
Si, c'est dans le film. Vous ne regardez pas comme ça, Dominique. On est,
oui, mais dans quel film?
Ah oui, oui.
Il faudrait faire un jeu, en fait. Faire écouter des BO à des acteurs en disant « À quel moment sommes-nous dans le film ?» On va recevoir tout à l'heure, justement, celui dont l'histoire est racontée.
Ce petit garçon, Christophe Boltanski.
Exactement. Celui dont l'histoire est racontée. Mais on va évoquer également la musique dans vos vies. On va commencer en 1990 avec vous, Dominique Raymond. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Led Zeppelin, évidemment. Leïla, il se passait quoi dans la vie de Dominique à ce moment-là?
On vous retrouve au cinéma, dans La naissance de l'amour, de Philippe Garrel. C'est pas votre première apparition au cinéma, mais vous considérez que c'est votre premier rôle. Vous aviez plus de 30 ans.
Oh oui.
Parce que votre vie, vous l'expliquez dans une interview, c'est intéressant, vous racontez comment avant, quand on faisait du théâtre, c'est parce qu'on avait cette vocation-là pour le théâtre et que ce n'était pas nécessairement une passerelle pour aller vers le cinéma.
Non, on n'y tenait pas particulièrement d'ailleurs, ouais. Mais en fait on rencontrait quand même pas mal de gens de casting et de cinéma et qui nous recevaient très gentiment, on venait pour un rôle, mais assez rapidement on comprenait qu'on ne faisait pas l'affaire parce qu'on venait du théâtre à l'époque, c'était quand même assez ça. Et si en plus on disait qu'on travaillait avec Antoine Vitesse à Chaillot, alors là, on vous rappellera, merci, on nous poussait dehors.
Ouais.
Donc c'était pas vraiment...
Il y avait vraiment deux équipes.
Il y avait vraiment deux équipes.
Parce que la musique n'est pas la même dans le jeu, parce qu'on reprochait quoi aux acteurs de théâtre?
Je sais pas, c'était un mélange de choses. Nous aussi, on n'avait pas une attitude tout à fait nette vis-à-vis du cinéma. Des fois, on se prenait pas pour non plus des queues de cerises. Donc, on n'avait pas toujours la bonne attitude aussi par rapport au cinéma, habitué à lire ces grands textes absolument magnifiques, qu'on vibrait, etc. dessus, et tellement émouvant. Mais,
Donc le mépris était mutuel, vous
le dites ? Non, c'est pas du mépris. En fait, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Parce que soit on regardait le cinéma d'en bas, parfois on le regardait d'en haut parce qu'on n'avait pas été choisi. C'est le renard et les raisins qui n'arrivent pas à attraper les trucs, puis il dit qu'il n'aime pas les raisins, quoi. En gros, c'était ça. Donc, il y a eu beaucoup de casting inutile, vraiment inutile. Et c'était pas grave, puisque le théâtre, de toute façon, bouffe tout, toute la vie.
Enfin, et puis le théâtre vous a beaucoup aimé, vous aime encore.
voilà, entre parenthèses, non, mais ça, j'en parlerai après. Oui, oui, donc, puis, au bout d'un moment.
Si vous avez un conducteur, si vous avez.
Non, non, c'est parce qu'on a, une première à Berthier sur la menthe anglaise de Marguerite Duras, mais c'est peut-être pas le moment de. Peut-être vous avez prévu d'en parler plus tard.
Ouais. On en parlera, c'est promis. On va écouter un peu la musique de William, Lebgill dans les années 90. On écoutait ça dans les années 90, c'est la musique qu'on écoutait à la maison, c'est ça qu'on faisait tout
petit. Ouais, quoi, totalement. Puis j'étais petit.
C'est la naissance
de Je suis né en 1990.
C'est la plus belle chanson du monde. Ouais. C'est la plus belle chanson du monde, William Lebgill, pour parler de votre naissance en 90. Et puis c'est aussi un texte qui raconte l'exil.
Ouais, exactement.
On choisit pas ça par hasard.
Non, non, parce que effectivement, mes grands-parents paternels ont immigré à la fin des années 40 en France. Et voilà, je suis issu de ça.
De cette immigration-là, de ce voyage, c'est une chanson très émouvante qui dit quand même que l'exilé, pensant trouver quelque chose de meilleur ailleurs, finalement vivra toute sa vie avec ce mal au cœur d'avoir perdu ses racines, en tout cas d'être un peu de nulle part. C'est un texte très très beau de Rachida.
En 2000, Dominique Raymond, vous écoutiez.
Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleure le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps.
On avait oublié qu'il avait fait de la musique brésilienne.
Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends.
Super chanteur, super acteur aussi, Charles Aznavour, qui d'ailleurs, au sens étymologique du terme, interprétait les chansons. Il est joué comme un acteur sur une scène.
Ouais, tout à fait.
Et ce texte-là, pourquoi l'avoir choisi pour cette période de 2000?
En fait, c'est pas pour une période particulière. D'accord. Que j'ai choisi tous ces morceaux. En fait, c'est ce que j'écoute en général. Ouais, et puis après, on les a mis à des époques correspondantes. Mais en fait, ce morceau, je l'ai découvert dans un spectacle de Calvario, comment il s'appelle ? Philippe Calvario. Et je ne le connaissais pas, cette chanson d'Aznavour, alors que j'avais été baignée durant toute mon enfance, évidemment, par Aznavour. Mes parents écoutaient beaucoup, etc. Et je l'ai vue dans les films, tirée sur le pianiste et tout. J'aimais énormément. Mais je ne connaissais pas cette chanson. Du coup, je l'ai écoutée en boucle pendant longtemps.
Je pense que vous la faites découvrir à pas mal de personnes.
Oui, j'adore, quoi.
Et 2000, on parlait des textes, des grands textes, des textes qui parfois peuvent nous résister ou qu'on peut réussir à apprivoiser. On vous retrouve sur scène dans Homme pour Homme de Brecht, mise en scène de Jean-Pierre Vincent. Au théâtre Nanterre à Mandier. Est-ce que ça a été une expérience particulière, cette pièce-là, sur scène?
La plus difficile,
ouais,
le moins bon souvenir, à peu près.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Brecht est difficile. Mmh. Brecht passe pas bien les années, je trouve. Enfin, parfois, on peut même le considérer comme pas has-been, mais enfin, c'est difficile de monter Brecht aujourd'hui, je trouve, et je le trouve pas très sympathique. Souvent, on a des rapports avec les auteurs morts, oui, très précis, encore plus que parfois avec les auteurs vivants. Ils sont tous là à nous porter dans leurs mains, ils nous accompagnent, ils sont avec nous. Ils passent à travers nous, en fait, pour dire ce qu'ils ont à dire. Et Brecht, non, il n'est pas là. On le cherche, et il n'est pas là, il est au-dessus. Il fume son cigare, il nous regarde, genre, comment tu vas te démerder avec ça ?
Et Jean-Pierre
Vincent,
c'est pas
très généreux.
Ouais, non, c'est marrant cette image de dire un auteur mort n'est pas sympathique.
Non. Un auteur mort peut aussi ne pas être sympathique.
Voilà. Ouais.
Voilà. Et je le voyais, je le sentais nous regarder, nous débattre dans un vivarium en se disant comment ils vont se débrouiller avec ça. Jean-Pierre Vincent avait encore choisi la difficulté supplémentaire, c'est qu'il avait monté deux versions en une. Ça durait donc très 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 longtemps. On était à Nanterre, fallait prendre des taxis après pour rentrer. C'est pas un très très bon souvenir, d'autant plus que le rôle, la veuve Big Big, en fait j'avais accepté ce spectacle, j'ai deux secondes.
Oui, pourquoi?
Je vous raconte ma vie. J'avais accepté ce rôle parce que, alors que ma médium m'avait dit de faire autre chose, non mais c'est pas vrai.
Elle avait raison.
Je l'ai pas écouté, je me suis dit c'est des conneries.
Ben voilà, non, mais faut pas.
J'aurais dû faire l'autre. Avec André Vims à la colline, une pièce de Kreutz, ouais. Bon, ça c'était une erreur. Et donc j'avais accepté parce qu'en fait je voulais chanter. Moi, mon rêve, c'était de chanter sur scène. Donc, je m'étais dit, là, avec Brecht, il y a les chansons, donc je vais chanter. Sauf que notre maître à chanter m'avait fait chanter avec une voix aiguë. Parce que Dessau, qui fait les musiques de Brecht, exige que les acteurs chantent avec une voix aiguë. Donc, je parlais normalement, avec ma voix normale, la veuve Big Big, quoi. Puis tout à coup, une espèce de voix complètement aiguë.
La tonalité est carrément différente.
Atroce, ouais. Les critiques avaient dit, les acteurs qui chantent sur scène, c'est un supplice, surtout Dominique Raymond. Bon.
Toujours à se faire remarquer. Hein.
William Lebguil, en 2000, vous écoutiez.
Seuls les experts reconnaîtront.
Aznavour, toujours.
À 80 000 le matin. Dans quel état vous étiez là?
Alors en fait, c'est la bande. Comment dire? C'est le soundtrack d'un jeu de PlayStation 1 qui s'appelle Colin McRae Rally. En fait, moi je passais mes après-midi à regarder mon frère jouer à des jeux de course.
Et ah, même ça, pas jouer vous-même?
Non, non, moi je le regardais parce qu'il était super fort, il adorait les bagnoles.
Mais il a toujours été plus fort.
Ouais. Et du coup, je le regardais pendant des heures jouer à Colin McRae Rally.
Et vous découvrez le théâtre le samedi après-midi?
Exactement, le samedi, c'était ça.
C'était 2 heures tous les samedis avec une envie, une excitation à l'idée d'être au samedi prochain déjà ou pas?
Ouais, c'était incroyable. En fait, j'ai découvert ça avec un de mes meilleurs copains qui m'a dit alors j'ai découvert une activité géniale, ça s'appelle le théâtre. Viens, on en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est un endroit, mais
pardon,
génial.
Génial, pourquoi?
Mais génial parce qu'on fait ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression de pouvoir faire ce que je voulais, d'avoir
un... Parce qu'on entend des actrices ou des acteurs qui vont à des cours pour parce qu'il ou elle tombe amoureux de quelqu'un, parce que c'est un endroit de rencontre, c'est un endroit d'interdiction. Non, mais voilà.
Ah non, rien à voir. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment ce truc-là de jeu total, quoi.
De liberté.
Ouais, quelque chose de très enfantin, en fait, quoi.
Et 4 ans après vos débuts, ça vous mène quand même sur scène au Festival d'Avignon.
Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Soyveres, quand même, mon professeur à l'époque, donc à Cervon, donc ce petit village de 3000 habitants, qui à un moment donné nous a dit, moi et un autre copain, les gars, je vais monter une pièce à Avignon, venez jouer dedans, quoi.
Et moi, j'étais en quatrième.
Et distribuer des tracts dans la rue.
Olivier Soliveres, qui a été récompensé pour récemment pour ses mises en scène, le Cercle des Poètes Disparus, et qui exactement. Fait des spectacles jeunesse absolument fantastiques.
Chaque fois, des énormes succès, en plus. En 2008-2011, Dominique Raymond, vous écoutiez Les Stranglers. Welcome on a good day, and the world was wonderful.
Ah, j'adore ça.
A midnight summer dream. Qu'est-ce qui se passe en 2008, Leïla, pour Dominique?
Je parlais des Molières pour Olivier Soliveres. Eh bien, dans ces années-là, 2008, 2009, 2011, quasiment 3 années de suite, vous êtes nommée aux Molières de la meilleure comédienne, que ce soit pour Le Pélican de Strindberg, que ce soit La Nuit de l'Iguane de Tennessee Williams, ou encore Les Chaises de Jeanne Ionesco, mise en scène par Luc Bondy aussi. Quand je vois je vois toutes les pièces dans lesquelles vous avez joué, tous les metteurs en scène avec lesquels vous avez collaboré.
C'est impressionnant.
C'est vertigineux. Ouais.
Hey.
Ouais.
Je dois parler.
Ouais.
Oui. Écoutez, oui, moi aussi, je suis étonnée.
On est dans la cour d'honneur à Avignon.
Non, je suis étonnée moi-même, effectivement, d'avoir à ce point-là, disons, un peu enchaîné les choses et toujours des choses. Enfin, j'ai une chance folle, en gros, quoi.
Et dans la distribution des rôles, on parle toujours du répertoire et des rôles de femmes. Après, vous n'avez pas joué que des femmes, d'ailleurs. Mais de comment on est distribué dans ces pièces-là et quel espace on a aussi pour ces personnages féminins? Vous regardez ça comment?
Ça me demande une réflexion.
Prenez votre temps.
Je ne sais pas comment, par quel bout commencer.
Bah, comme vous voulez.
Je suis là.
Non, reposez-moi la question.
Non, je me demandais si vous estimiez dans les pièces dans lesquelles vous avez été distribué, si les rôles féminins étaient des rôles où vous aviez l'impression d'avoir un espace de jeu suffisant, une joie suffisante, justement, pour être pleinement heureuse en tant que comédienne.
Pleinement heureuse, oui. Alors, effectivement, c'est un petit peu à double tranchant. Ouais. Le mot heureux n'est pas toujours au rendez-vous, bien qu'on fasse des choses qui nous plaisent énormément. Mais ça a été chaque fois, et je me rends compte maintenant, des rôles d'une telle importance et d'une telle force que il y a aussi la difficulté que ça comporte aussi de refaire chaque jour ce jeu. C'est comme les Jeux Olympiques, si vous voulez, il y a un saut, une fois, il dure une minute, mais nous, ça dure un mois, 2 mois, 3 mois, puis parfois un an, puis après une tournée, etc. Donc, il faut tout le temps être dans le moment... le moment unique, répété à l'infini.
Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut rater un saut et réussir le lendemain?
On peut rater un saut, oui.
C'est l'avantage du spectacle vivant, ouais. C'est-à-dire qu'une représentation nous chasse l'autre aussi.
Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est de l'athlétisme, ça j'en suis sûre. Ça a toujours été de l'athlétisme, maintenant un peu moins, forcément, je saute un peu moins sur scène. Mais il y a eu beaucoup de choses. Enfin, j'ai toujours un peu imaginé les rôles très, d'une façon dansée, en fait, physique, avant le texte. Je les vois dans l'espace bouger, quoi. J'aime la danse peut-être encore plus que le théâtre, mais j'en ai pas fait, mais j'ai réussi à insuffler la danse dans le théâtre un peu tout le temps.
Ça reste de l'expression corporelle, oui. En 2008-2011, William Lebgill, vous écoutiez.
Hard rock.
Et on est encore avec Olivier, celui de Grèce.
Absolument, dans Ado, c'est cette comédie qu'il met en scène avec Mehdi Ben Saïd et Thomas Soliveres aussi. Vous tournez dans Mes Colocs, une web-série pour un établissement financier réalisé par Riyad Satouf. Tiens, le voilà qui débarque, Riyad Satouf. À cette période-là, vous projetiez comment dans ce métier-là? 2008-2011
En fait, moi, je me disais, si j'arrive à faire ce métier, à faire du théâtre toute ma vie et de réussir à pouvoir manger grâce à ça, c'est super, quoi. Le reste, vraiment, c'était mon rêve de pouvoir vivre de ça, quoi.
Eh ben c'est réussi, on retrouve et William Lebgill et Dominique Raymond dans le film La Cage, aux côtés de Michel Blanc. Ce film porte sur votre histoire, Christophe Boltanski, merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Merci de m'inviter.
Mais c'est normal, vous êtes grand reporter au Nouvel Obs, écrivain et chroniqueur, vous avez publié donc ce roman chez Stock, qui a reçu le prix Fémina, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était il y a 10 ans déjà. Et c'est une partie en fait du roman qui est devenu le film.
Oui, effectivement, c'est même quelques phrases dans le livre sur consacré à mai 68 et un souvenir d'enfance où effectivement mon oncle Christian avait sa première expo et avec mes grands-parents on sillonnait Paris pour apposer des affiches alors qu'il y avait quand même bien d'autres affiches à poser dans Paris à ce moment-là sur cette exposition.
Mais quelle joie d'avoir été ce petit garçon dans cette... En tout cas, quand on voit le film, on se dit mais... Quel merveilleux environnement pour s'épanouir, s'éveiller, pour s'ouvrir à tout.
Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'était très joyeux. Mmh. Alors, en même temps, il y avait quand même la peur de l'extérieur. Et c'était quand même un monde très libre, mais un monde assez cloîtré, clos. Ouais.
Qui se protégeait avec autant de caractère, dans tous les sens du terme, dans la famille.
Mais oui, force de caractère. Oui, c'est ça. Alors que c'est ça qui est étrange. C'était quand même une famille assez fusionnelle. Ma grand-mère était à la fois extrêmement généreuse et quand même très possessive. et en même temps, ça a développé des caractères très différents. Donc il y avait
d'artistes, de sociologues, de linguistes. Enfin, on retrouve cette galerie de portraits entre guillemets.
Oui, oui. Chacun avait son petit monde. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Donc je jouais mon principal camarade de jeu, c'était Christian, qui est devenu plasticien. Et donc on jouait aux petits soldats, on faisait plein de petits trucs, on faisait des maquettes, et en même temps lui faisait ses trucs à lui, qui se retrouvaient après dans des musées. Donc donc il y avait une sorte de continuum entre le monde du jeu, de l'enfance et son monde à lui.
Raconter sa famille, c'est la mettre en valeur, c'est la trahir, c'est balancer des secrets. Comment la famille réagit quand on raconte?
Ça peut très mal se finir. Généralement, ça se finit par un procès en diffamation devant la 17e chambre correctionnelle.
Ce qui n'est pas le cas.
Mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Ça peut mal se finir parce que forcément, les souvenirs, c'est quelque chose de compliqué. Chacun se souvient de choses différentes. Ouais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ce livre, c'est un roman. Vous savez, Jules Renard disait, une vérité de plus de 5 lignes, c'est du roman. Donc forcément, je raconte des choses où j'étais pas, donc j'imagine. Et on était dans cette famille, ma grand-mère était écrivaine, mon père est sociologue, mais aussi poète, mon oncle Christian était artiste. Donc ils m'ont accordé cette chose qu'on appelle la licence du romancier. Voilà, cette liberté-là qu'ils s'étaient eux-mêmes octroyée. Et donc voilà, donc ça s'est plutôt bien terminé.
Et ça a été facile de confier sa famille à Lionel Bayer?
Mais moi, j'avais adoré ces films. Une adaptation, c'est toujours une rencontre. Et
une trahison.
Une trahison, mais ce qui est, J'ai tout de suite eu conscience que c'était compliqué à adapter au cinéma, hein, ce livre, parce que c'était pas, le récit n'est pas linéaire, n'est pas chronologique. Le plan du livre, c'est des pièces, les pièces de la maison. Donc,
c'est ce qu'il racontait en ouverture. Ouais,
Je savais bien qu'il fallait qu'il s'en empare, qu'il se l'approprie. Donc, je lui ai accordé cette liberté-là, et enfin, ou même, de toute façon, il l'aurait prise de toute façon. Et très étrangement, il n'a pas respecté la lettre du livre, mais il a été parfaitement fidèle à son esprit.
Le livre, en tout cas, est chez Stock. Ça s'appelle La Cache, signé Christophe Boltanski. Merci d'être venu.
Et merci à ce micro.
Et bis à la famille. Bis à la famille. Voici Camille là-bas. Voilà.
Bonjour tout le monde. Ce week-end, je me suis disputée avec une amie. Bon, jusqu'ici, rien d'anormal. Hein. Comme vous le savez, ma dernière chronique a encore allègrement dépassé les 7000 vues. Et je vous apprends rien à Guy, la célébrité fait des envieux. Bon. Et si aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre avec mon amie, tout va bien et on s'aime très fort, ça a été très violent sur le moment. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur une petite embrouille, genre désaccord poli, France 5, c'est ce soir, Karine Rissouli. Je souhaiterais si possible nuancer le propos de mon voisin de droite. Non, là c'était énergie 12. Dans la villa, front contre front, moi j'étais les Marseillais et elle c'était le reste du monde. Vraiment, le genre de dispute où Pascal Praud est là. Et après vous allez me dire que la France n'a aucun problème d'ensauvagement. En fait, elle et moi, on est amis depuis 12 ans, d'accord ? Donc forcément, on est remonté assez loin, quoi. Et c'est parti dans tous les sens. Je dis ça parce que juste après, j'ai vu mon pote Hugo qui m'a demandé le sujet de la dispute. J'étais là, le sujet. Sérieux, lui. Mais en fait, c'est vrai que les mecs, c'est malades mentaux, là. Quand ils se disputent, c'est à propos d'un seul truc. Franchement, vous avez déjà vu une embrouille entre gars? Ça commence par, oh, gros, déjà, c'est moi qui ai payé au kebab la dernière fois. Et ça finit par, ok, frérot, mais alors tu prends pas supplément escalope. Alors qu'une dispute normale, sensée, adulte, rationnelle, ça commence par, ma chérie, t'es sûre que ça va? Et ça finit par, de toute façon, si t'existes pas aux yeux de ton frère, c'est parce que tu m'as jamais rendu mes bottes. En plus, avec ma pote, on s'est embrouillé par téléphone. Alors là, grosse erreur, jamais par téléphone. Non, faut se voir, faut se parler, yeux dans les yeux, faut pouvoir se toucher, éventuellement se foutre une droite ou se faire un câlin, mais faut privilégier le contact physique, quoi. Donc je suis au téléphone avec elle, en train de l'accabler sur tout ce qu'elle n'a pas fait, pas assez été, le message auquel t'as pas répondu, et la niveau auquel t'es pas venu, et le com que t'as pas laissé sous mon dernier post Insta, alors que clairement j'étais trop belle, ma belle, c'est abusé. Le tout en faisant des grands moulinets avec mes bras, style échauffement pilates. Okay. Or, chez moi, j'ai un vase en céramique, qui est assez fragile et auquel je tiens. Mon grand-père me l'avait fabriqué lui-même. Enfin, je crois, parce que quand elle me l'a offert, ma grand-mère m'a dit « Comme ça, maintenant, papy sera toujours près de toi.
Oh »
Très beau cadeau, mais elle aurait pu quand même le nettoyer. Le truc était rempli de poussière.
Oh non.
Et tout au long de l'embrouille, je ne pouvais pas m'empêcher de m'agiter tout en veillant à ne surtout pas casser ce vase. Donc ça donnait « Oui, de toute façon, tu ne m'appelles plus depuis que tu as un nouveau mec. Tu t'en... Oula, attention, ouais, j'ai eu peur. Tu t'en bats les couilles de moi, tu ne m'appelles jamais. Ouais, mais toi, tu ne connais pas le prénom de mon fils. » Alors qu'il a quand même 6 ans. Ah ouais, 6 ans, comme la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais. Oh merde, oh merde. Ah non, ouf, ça va. Je veux dire, comment j'allais vraiment, tu penses qu'à ta gueule. Quand soudain, j'ai réalisé que ça faisait plus d'une heure que j'accablais mon amie sans accepter l'idée qu'éventuellement, j'ai pu avoir des actes brusques et maladroits envers elle. Mais ça faisait aussi plus d'une heure que j'essayais de ne pas avoir de gestes brusques et maladroits envers mon vase. Donc prendre soin d'un vase fragile, ça je sais faire. Mais d'une amitié fragile, non, là apparemment je suis une merde. Mais alors pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, je pense que je me dis « Oui, bon, parfois je suis maladroite, mais ça va, elle comprendra, c'est mon amie. » Mais non, parfois les vases, comme les amitiés, ça se casse. Or, un vase cassé, ça se voit. Une amitié, beaucoup moins. Alors, en ces temps compliqués, soyez vigilants et prenez soin de vos amis. Parce que, comme le disait si bien Paul Walker, l'amitié, c'est comme un câble de frein. C'est pas parce que ça se voit pas qu'il faut pas l'entretenir.
Tanguy Bassureau, de quoi allons-nous parler dans la prochaine demi-heure?
Je parlais d'Elon Musk et de sa marque de voiture Tesla qu'il est en train de couler tout seul comme un grand. J'ai pris un taxi hier qui était une Tesla. Je vous assure que le chauffeur s'est quasiment excusé.
Dominique Raymond, William Lebguil sont nos invités. Ils sont à l'affiche avec Michel Blanc du nouveau film de Lionel Bayer qui sort aujourd'hui au cinéma La Cache. Original avec Leïla Cadeau-Boudani, Lisa Delmoitié, Camille Lavabre, Amandine Lourdel, Oldelaf, Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
bonjour
et
Camille.
Dominique Raymond et William Lebguil.
France Inter, la bande originale,
Leïla Kadour et Nagui.
Avec cet objet cinématographique non identifié, parce que comment qualifier ce film La Cage qui sort aujourd'hui signé Lionel Beyer? Il y a un côté très poétique et en même temps très réaliste de ce que l'on a pu vivre pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce que l'on a pu vivre pendant les événements de mai 68, mais avec une galerie de portraits et des rapports familiaux qui sont comme un grand théâtre de la vie, quoi.
Ouais, c'est assez, et puis c'est assez léger, enfin, et à la fois c'est très dense. C'est un peu comme un, je dirais, un trou noir déguisé en meringue.
Merci William. On vous souhaite.
Allez, moi j'y vais.
On vous souhaite également une bonne journée.
Non mais cet appartement, c'est une sorte de nid en fait, avec votre personnage en fait, Dominique, qui donnait la béquée comme ça à ses petits oisillons en leur jetant des morceaux de pommes, des morceaux
de meringue.
De meringue. Est-ce que fait aussi l'arrière-grand-mère en fait? Il y a comme un petit nid feutré où ils vivent tous ensemble, ils grandissent tous ensemble.
Oui, c'est assez fou cette façon de prendre tous ces repas sur le lit.
Oui,
tout le monde est réuni sur le lit. William dort juste derrière. Ils sont tous dans une seule pièce. C'était aussi pour des questions de chauffage. Donc, il y a toujours l'autre partie qui est la plus réaliste. C'est que quand même, il fallait chauffer tout l'appartement. Et en hiver, il ne chauffait qu'une pièce, en fait.
Oui, mais toutes les contraintes, justement, font l'histoire. Que ce soit la cache pour se protéger de la délation des voisins, de vivre ensemble et de s'entraider les uns les autres, de créer des œuvres d'art, d'analyser la langue française et de s'intéresser à la politique et aux grands de ce monde, le discours du général de Gaulle, cette porte cochère qui a un véritable rôle aussi, parce qu'il y a des voitures d'époque qui sont absolument émouvantes à revoir pour ceux qui les ont vues circuler, parce qu'on n'en voit plus beaucoup, des Amis 6 qui se baladent. On voit quelques deux chevaux encore, mais des Amis 6 beaucoup moins. La porte cochère aussi a son rôle et chaque pièce a son secret. Et puis, Michel Blanc, bouleversant évidemment, encore plus bouleversant parce qu'il est dans une émotion extrêmement forte avec cet enfant. Il y a des scènes qui sont d'une justesse, d'une poésie et d'une transmission qui est émouvante et qui donne les larmes aux yeux. Ce film sort aujourd'hui, ça s'appelle La Cache. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Hier, j'étais en train de discuter sur Instagram avec Annie Ernaux. C'est quand elle s'est mise à écrire « Ouais, je suis à l'hôpital pour ma hanche, j'ai besoin de 700 000 euros » que j'ai compris que c'était son faux profil. Quand soudain, je me rappelle que j'ai un rendez-vous, je fonce, j'appelle un taxi sur l'appli G7, on me donne son numéro de plaque pour que je puisse le repérer, je le vois, c'est une Tesla. Marque devenue sulfureuse, avant là-dedans on passait pour une belle personne qui se préoccupe de l'environnement, aujourd'hui on passe pour un nazi. Le type me dit « Pastureau », du coup je réponds « Je sais pas ». Toujours ce sens de la répartie qui a fait ma légende. Il me dit « Si, tous les jours à midi 10, c'est vous le phénomène de l'humour qui fait les beaux jours du service public ». Je commence un peu. Je réponds non, je suis Oldelaf. Il dit pas du tout Oldelaf, c'est ce guitariste sans limite qui un jour, alors que vous receviez Barbara Schulz, a associé son nom dans une chanson à Papa Schulz. Hein, puisqu'ici, on s'en souvient, Oldelaf avait été convoqué par la direction et si nous n'avions pas manifesté devant la radio avec des pancartes « Je suis Schulz », actuellement, il serait à France Travail. Hein, donc je lui dis « Ok, c'est moi. Je monte dans la voiture, j'ai cette business. J'ai été surclassé, il y a tout. La mini bouteille d'eau en plastique par rapport à l'état de la planète, je ne la bois pas. Les bonbons, par rapport à mon état à moi, je ne les mange pas. » Et là, la conversation démarre sur la Tesla. À ce moment-là, j'ai pas envie de politiser le débat. Je me dis, il y a encore 2 ans, Elon Musk était considéré comme un génie de la tech. Il l'a sans doute acheté à cette époque. Je vois bien que la Tesla n'est pas neuve. Mais c'est le chauffeur lui-même, à qui j'aurais demandé son prénom si j'étais intéressé par les gens, appelons-le Ensemble Vide, qui me dit, cette Tesla, c'est une galère, je cherche à la revendre, personne n'en veut. C'est véridique, il baisse le prix tous les 3 jours, il n'y a pas un acheteur, la marque est plombée. C'est-à-dire que si Elon Musk était le PDG de la boîte qui fait les petits fromage pané, dans la salade chèvre chaud, les cuistots mettraient plus que de la laitue. Musk, en fait, suscite le même sentiment de rejet que les betteraves rouges ou LFI chez les Juifs de France. Alors attention, il y a toujours des gens qui adorent Elon Musk. Mais disons que c'est devenu politique. Disons que si vous avez une famille de gauche, qu'un dimanche, il y a un déjeuner de prévu, que vous arrivez chez papy en Tesla, il vaut mieux s'apprêter à éviter un jet de jus de poulet brûlant. Hein, si vous n'avez pas fait d'école ninja avant pour vous mettre en condition, vous perdez la moitié du visage. J'étais donc là, bien assis à l'arrière de la Tesla et écouter Ensemble Vide dire que chaque matin, il avait peur de voir sa voiture taguée ou incendiée. Quand soudain, mon téléphone se met à vibrer. Je suis toujours sur vibreur parce que j'ai horreur des petits signaux sonores, à part les piaillements des oiseaux. Les oiseaux, comment expliquer? Ce sont ces bêtes volantes dont on a redécouvert l'existence il y a 5 marquant au moment du confinement. Depuis, les abrutis qui défilent à vélo avec leurs enceintes JBL à fond sur le guidon ont repris possession des villes. Mais en 2020, on avait redécouvert la vraie vie. Après ça, pendant 6 mois, j'ai eu envie de griller des saucisses Herta au feu de bois dans les gorges du Verdon. Puis le Star System m'a de nouveau happé et la spirale infernale s'est réenclenchée. Radio, télé, spectacle, succès. Hôtel Ibis de Dijon, Xanax à 1h du matin pour supporter le fait qu'à l'Ibis de Dijon, il n'y a que la TNT. Enfin, bref. Je regarde mon 06, comme dit plus personne. Et là, en fait, un ami m'envoie un article du Point à propos d'Elon Musk. C'est marrant, pile à ce moment-là. C'est comme si, alors que j'étais en train de cuire des endives, Laurent Mariotte m'envoyait un émoji aubergine. Et là, je me suis dit, ça va pas arranger les affaires d'Ensemble Vide. Parce que figurez-vous qu'Elon Musk, qui, par le passé, a fait un salut romain. Enfin, on pense, c'était peut-être juste le dernier être humain à faire du stop. Ah oui, j'ai jamais entendu parler de Blablacar. Et en plus, quand je lève le pouce, j'ai tous les doigts qui viennent. Bon. Et là, donc, cet homme a partagé sur X, que lui appelle La Maison, un post d'une certaine Alice Smith disant « Staline, Mao et Hitler n'ont pas assassiné des millions de personnes, ce sont leurs employés du secteur public qui l'ont fait ». En lisant ça, j'ai failli appeler les grandes gueules d'RMC pour critiquer les fonctionnaires. Sauf que les nôtres, au pire, prolongent leur pause café de 2 minutes. Ça va, on n'est pas sur de l'extermination massive d'êtres humains. Donc les 220 millions d'abonnés de Musk sur X ont pu voir passer ce post, qui est problématique parce que un employé du service public qui avait comme chef Mao, Hitler ou Staline, en général, n'avait pas son mot à dire. Rarement la phrase « Joseph, cher PPP, petit père des peuples, pardon mais j'aimerais qu'on fasse le point au niveau pro » a été prononcée. Hein, d'accord, si l'ensemble des travailleurs de ces services publics s'étaient ligués pour abattre ces dictatures sordides, ça aurait sans doute freiné le projet. Et quand tu bossais pour les nazis, tu savais où tu allais. C'est pas comme si dès 1933, les types s'étaient pas mis à brûler des livres. Aujourd'hui, on aurait Augustin Trapenard qui s'interposerait en hurlant « Il faudra me passer sur le corps » plutôt que de cramer une page du Renaudot. Mais en 1933, Augustin Trapenard n'existait pas, comme à la plupart des époques d'ailleurs. Hein, mesurons la chance qu'on a, parce que sans lui, Instagram serait un réseau de débiles. Pourquoi Elon Musk a-t-il partagé un tel post ? Parce qu'en 2 mois, lui et Trump ont licencié 100 000 fonctionnaires. Et perdre son job aux États-Unis, c'est violent. Leur système social, eux appellent ça système social, nous on appelle ça traverser de l'Amazonie sans venin, contrer les morsures d'anaconda qui font la taille de Monaco. Et c'est là où Musk est vraiment bête. C'est qu'en comparant les fonctionnaires du temps d'Hitler à ceux de son temps à lui, indirectement, il se compare à Hitler. Je crois qu'on n'a pas fini de voir des croix gammées taguées sur des Tesla, j'ai eu envie de dire ça à Ensemble Vide, mais son regard triste m'en a dissuadé, alors j'ai pris un bonbon et je me suis tu dans le silence confortable de ces Tesla qui avant faisait tellement envie.
Merci Tanguy Bastion.
J'en
profite pour passer l'annonce. Oui, ma Tesla est en vente. Hein, si...
Cher ? Ou tu baisses le prix encore ?
Je baisse le prix, je m'aligne sur Ensemble Vide. Où est donc Tanguy Passion ?
Ah bah, vendredi, figure-toi, qui sera à Beauchamp-les-Laval et le 24 avril, situé du côté de Biarritz, je conseille d'aller à la gare du Midi parce qu'il va y jouer.
Très bien. Le, pardon, le film La Cache a été présenté à Berlin en compétition. Dominique Raymond, William Lebguil partagent l'affiche avec Michel Blanc, Aurélien Gabrielli, Liliane Robert, qui est absolument étonnante et formidable comme d'habitude, ouais. Ethan Chimianti, Larisa Faber, Adrien Barazone et Gilles Privat, le tout réalisé par Lionel Bayer. D'autres événements, oui, culturels, Leïla.
On va parler d'une exposition à Versailles, à l'Espace Richard, qui est consacrée à un artiste qui est connu pour ses écrits. C'est un auteur connu en France. Il est mort, mais dans cette exposition, c'est une autre facette de son talent qui est montrée, à savoir ses photographies, 26 clichés
Nikos.
De cet auteur qui est né en 1840, qui évoque la photographie dans ses romans, qui a même conçu un déclencheur pneumatique pour faire des autoportraits, un peu l'ancêtre du selfie, qui faisait développer ses photos, qui pour le coup n'avait pas de dimension sociale dans les clichés qu'il prenait, contrairement à ses romans. C'est un auteur naturaliste, c'est le chef de file, absolument, c'est Émile Zola, chef de file du mouvement naturaliste. 26 clichés d'Émile Zola seront exposés à Versailles, une facette qu'on connaît un petit peu moins de l'auteur, même si il a consacré une grande partie de sa vie à prendre des photos et surtout à aimer comprendre comment les choses fonctionnaient. Y a-t-il une facette de votre vie, Dominique, que nous ne connaissons pas ? Je crois que vous exposez.
Oui, j'ai exposé pour la première fois il y a 2 ans, à la suite du Covid, où j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Et les éditions des femmes, pour qui j'enregistre parfois des disques audio, m'ont gentiment proposé d'exposer dans leur magnifique galerie Rue Jacob. Bon, ça a été la plus belle parenthèse de ma vie, quoi. C'était extraordinaire de pouvoir exposer oser.
Des dessins.
Qu'est-ce que c'est votre dessins, voilà, qu'est-ce que vous exposez?
En fait, c'est banal, mais tous les enfants dessinent, moi aussi, donc j'ai commencé assez rapidement à dessiner, même peut-être sans doute avant d'écrire, comme tous les enfants du monde, sauf que j'ai continué, en fait, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai 350 cahiers de dessins, croquis, j'ai fait les arts déco en Suisse, j'étais dans la section peinture, la section qui n'intéressait personne, parce que ce qui était intéressant aux arts déco à l'époque, c'était de faire de la céramique, de l'architecture d'intérieur, du graphisme surtout, c'est très important, mais la peinture, alors là, et moi c'est uniquement ça qui m'intéressait, la peinture à l'huile, j'ai appris à monter des châssis, la colle de peau, colle de poisson, tout ça, j'étais vraiment, d'ailleurs c'était mon premier job dans un magasin de beaux-arts. Et j'ai aimé toute ma vie, tout le temps, faire des portraits à l'huile. Ouais. Donc j'ai toujours fait ça, mais à l'époque c'était...
Des portraits de qui des...
Bah, de mon entourage, ouais. De ma famille, plus tard ça a été mes enfants, etc. Ouais. Mais comment dire, c'était l'époque de l'abstraction, donc j'intéressais absolument personne. C'est-à-dire que c'était à la honte de faire ce que je faisais.
Vous êtes étonnante, vous nous avez parlé de danse tout à l'heure en disant que c'était peut-être votre première passion, maintenant de la peinture, comme si finalement le théâtre, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais en tout cas ça entre en rivalité avec ces deux autres disciplines.
Non. Le théâtre, c'est ce qui est le plus important aussi. Mais j'ai toujours aimé m'évader dans ma tête ailleurs en me disant si je faisais ça, ce serait plus simple, quoi.
Oui.
Souvent, j'envie celui d'en face dans une équipe de tournage. J'aimerais être l'accessoiriste. Je me projette toujours de l'autre côté en me disant oh, ça doit être tellement plus facile, tellement plus agréable. Ils sont ensemble, ils sont complices. Et puis nous, on est toujours un peu tout seul, en fait. Donc voilà, j'aime bien me projeter dans d'autres vies, c'est sûr.
Et vous, William, une facette de vous qu'on ne connaît pas alors, après Dominique, il va falloir y aller, là.
j'ai eu une période peinture également, pendant le Covid. C'est vrai, hein, c'est totalement vrai. Je me suis mis à peindre des paysages que j'appelais des wheels.
C'est quoi des wheels?
Parce que je m'appelle William.
Oui, merci, je me souviens. C'est quoi des wheels? C'est des...
C'est des paysages.
Vous avez failli vous appeler Steve, rappelez-vous. Steve.
C'est un paysage voilà, que je peignais à l'huile. En fait, j'en ai fait quatre. Il y a quatre wheels que j'ai donné à mes amis et à ma famille.
C'est super ce que fait Dominique, hein, sur Insta.
Ça, c'est autre chose,
non. Je me suis mis sur Insta, en fait, uniquement pour pouvoir oser montrer pendant le Covid, où on avait vraiment le temps de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout à coup, il n'y avait plus que ça qui prenait toute la place. C'était juste extraordinaire. J'ai très bien vécu cette période. Et du coup, j'ai ouvert ce compte. Enfin, ma fille m'a ouvert le compte, parce que moi, je suis absolument incapable de faire quoi que ce soit avec ce genre d'appareil.
Mais c'est très beau, c'est très doux.
Ah, merci.
Et
vous, William, vous n'avez pas fait de photo de vos wheels?
Si, j'ai une photo de mes wheels, vous voulez voir?
Vous pouvez nous montrer ça. Pendant ce temps-là, je prépare la question suivante, parce que c'est pas très radiophonique du coup de nous le montrer qu'à nous. Autre question, on va parler du film A Real Pain, qui est réalisé par l'acteur Jesse Eisenberg, qui a été récompensé aux Oscars. Une belle histoire a eu lieu après le tournage de ce film, pendant même le tournage de ce film. Le film raconte l'histoire de deux cousins juifs américains qui vont plonger même dans le passé familial en Pologne. On parle ainsi des descendants, des victimes de la Shoah. Généralement, on parle des victimes, peu de ceux qui restent et de ceux qui doivent essayer de construire parfois une mémoire trouée ou en tout cas manquante.
Ils sont allés là-bas?
Il a été là-bas pour tourner, absolument.
Et ils ont retrouvé quelqu'un de sa famille?
Non, il a fait un acte, une demande officielle. À la Pologne.
Avoir la nationalité.
Absolument. Il a demandé la nationalité polonaise parce que finalement, ce qu'il raconte dans son film, et c'est ce qui lui arrive à lui aussi, c'est qu'il n'a plus de lien réel avec la Pologne puisqu'il n'a plus d'ancêtres qui viennent de là-bas, qui vivent là-bas. Et c'est une façon pour lui de tisser ce lien-là directement avec ce pays. Si vous deviez demander une nationalité autre que la vôtre, ce serait laquelle, Dominique? Vous êtes suisse?
Oui, je suis suisse.
C'est pas grave.
Il n'y a pas de piège.
Si vous fallait demander une nationalité pour reconnecter de façon symbolique avec un ancêtre ou avec, peut-être si ce n'est pas un ancêtre, quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur, vous demanderiez quelle nationalité?
Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nordique, en fait. Je suis fan de Dreyer, de Bergman, de Lars Norén. Donc, en fait, je demanderais, et surtout de Jon Foss aussi, donc je demanderais la nationalité norvégienne.
Et vous, William?
Moi, c'est logiquement, ce serait la nationalité algérienne.
Oui.
Et je me dis un peu fantasmagoriquement, ce serait la nationalité japonaise.
Et pourquoi donc?
J'adore le Japon. Ah, oui. Je suis totalement fan du Japon. De cette poésie, de en même temps de cette droiture qu'ils ont. Mais en fait, c'est un peu les Norvégiens de l'Asie, les Japonais. Ah ouais.
C'est comme ça qu'ils se présentent souvent.
Merci pour cette analyse géopolitique.
Ouais. Est-ce que je peux faire une citation de William
qui vient
d'un journal, je ne sais plus lequel, début 2025 sera placé sous le signe de la glande et du latte avoine. Et moi, je trouve que ça, c'est un programme présidentiel.
Dominique, est-ce qu'on peut avoir votre réaction quand vous avez vu la toile peinte par William?
J'adore, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça magnifique. C'est à l'huile en plus.
Ce sont les couleurs.
Ça, c'est le fond d'écran, ça.
C'est quel format?
C'est comme ça, à peu près.
Oui, dites à la radio, c'est rectangulaire, donc.
Oui, voilà, c'est rectangulaire. C'est peut-être, je dirais, 15 sur 25.
La taille d'un iPad.
Bah, envisager une exposition conjointe. Voilà.
Voilà. Parlons des projets. Dominique Raymond, vous serez à partir de ce vendredi 21 mars et jusqu'au 13 avril, vous serez dans L'Amante anglaise de Marguerite Duras, une mise en scène d'Émilie Chariot. Ça se passe au Théâtre de l'Odéon. Atelier Berthier, avec Nicolas Bouchot et Laurent Poitrenaud. Là, aujourd'hui, vous en êtes à quel stade de la préparation quand on est à quelques heures de monter sur scène?
Alors, on a déjà joué un petit peu, disons, en tournée pour, comme on dit, parodier, mais enfin, parce qu'on était, voilà, acheté dans ces endroits. On est allé à Genève, à Lausanne, on l'a créé au Théâtre de Vidy à Lausanne, on a joué à La Rochelle, on a joué à Annecy, on a joué tout le mois de janvier ailleurs, et là on arrive à Paris, et donc il y a une petite pression supplémentaire, on va dire, parce qu'on est à Paris et que c'est à Berthier, et que voilà, c'est chargé, quoi. Voilà, c'est chargé.
L'adresse.
On est un petit peu nerveux, mais ça va aller.
Un homme et une femme répondent tour à tour donc à l'interrogateur. Cette pièce se jouera du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 13h, et le gros bruit que vous avez entendu, c'est le front d'Oldelaf qui s'est écroulé sur le micro.
Je suis tombé comme ça. Boum. Je suis désolé.
Ah ouais.
Je suis désolé.
Pour une fois que j'avais demandé est-ce que ton micro soit ouvert, je le regrette déjà.
On n'aura pas fait la saison complète, mais on a apprécié quand même.
Merci à tous, je vous quitte là-dessus, salut.
Dominique, vous serez également à l'affiche de 3 longs métrages, une année 2025 sans laté. Vous serez à l'affiche de Maigret de Pascal Bonitzer, des Talents d'Achille de et avec Jed Marlon, et Sauvons les meubles de Catherine Cosme. Évidemment, toujours la peinture sur le compte Insta, je vais donner quand même l'adresse, c'est @DominiqueRaymond REY-MOND _scan pour ceux qui veulent voir ses dessins et ses peintures. Quant à vous, William Lebguil, Nino, premier long métrage de Pauline Lecaisse, quel personnage jouez-vous?
Un ami de Nino.
Merci.
Merci à vous.
Ah, ça donne envie, hein.
Ouais, c'est de l'efficacité.
Ah, ouais, c'est ça. Mac Walter, donc ça sera bientôt sur Amazon.
Ouais, exactement, Prime. Ouais.
Avec notamment avec Camille Lavave ici présente, et vous serez à l'affiche de Baisenville.
Baisenville
sans Camille.
Baisenville de Martin Jova, voilà, magnifique, qui avait réalisé Grand Paris avec Emmanuel Berco, Michel Hazanavicius.
Et Géraldine Bellas.
Exactement.
Très bien. Baisenville. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah déjà, désolé pour Brecht, qui ce matin est passé pour un gros salopard odieux. Ah bah, elle l'a pas loupé, hein, Dominique Raymond. Et pourtant, quel mec sympa, Berthold. La semaine dernière, il était là, à votre place, il nous disait « Mais j'adore les acteurs !» Et en même temps, c'est compliqué avec certains. Tenez, prenez Dominique Raymond, elle chante trop aiguë, elle fait aucun effort, cette nana est insupportable. Désolé pour vous, Dominique Raymond, immense comédienne de théâtre et de cinéma, qui a découvert ce matin une émission où l'on parle mal des films, on les spoil, on mélange les personnages, bref, un naufrage. Heureusement, on avait notre caution culture, intelligence, stabilité, humour, savoir-vivre, célèbre pour son rapprochement, Barbara Schulz, Papa Schulz, et qui a du mal à maîtriser son front. Hold on. Désolé. désolé enfin pour William Lebgill qui a été une fois de plus très mal reçu par Nagui. Après, William, rien de personnel. Hein. Hier, il a craché sur Jonathan Cohen. Demain, il a prévu de ne pas adresser la parole à Karine Tuile. C'est sa vision, hein, Nagui, du vivre ensemble.
C'est ça. Je voulais revenir quand même, Dominique Raymond, sur... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de vous recevoir suffisamment dans cette émission par rapport à la formidable carrière que vous parcourez, que vous embrassez. Évidemment, il y a le théâtre. Mais revenir sur les rôles au cinéma, vous attendez quoi des rôles qu'on vous propose au cinéma? Parce que quand je revois les Simenon que vous allez jouer, de partager l'affiche avec François Berléand, Thierry Lhermitte, est-ce que vous vous ouvrez...
C'est une déchéance, Berléand.
Est-ce que vous, vous sauvez François Berléand de l'anonymat? Est-ce que vous vous ouvrez à des cinémas que vous refusiez avant?
Non, j'ai...
Sincèrement?
Non, non, je refuse pas... Je refuse pas tous les jours des scénarios, mais... pas du tout. Mais... Je voulais dire le cinéma plus, vous voulez dire...
Populaire. Les comédies, comment ce cinéma vous accueille-t-il? Et comment vous appréhendez d'être dans des rôles qui sont moins...
Ce qui est bizarre, c'est que c'est au moment où vous pensez que vraiment là, c'est bon, en fait, en gros.
Votre carrière rebondit.
Enfin retourner à mes pinceaux. À ce moment-là, vous vous intéressez parfois... Tout à coup, c'est une période où vous intéressez les gens parce que vous ne la désirez peut-être moins, je ne sais pas. Enfin, c'est curieux, ce n'est pas nous qui décidons en fait les choix.
C'est un peu ce qu'Hélène Vincent disait à ce micro aussi. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux rôles qu'on vous propose auxquels vous ne vous attendiez pas et finalement...
Oui, c'est vrai que souvent on m'a proposé, après La Neige à Noël, des déclinaisons à l'infini de mères, de toutes sortes de mères. Mais la plupart n'étaient pas des rôles très intéressants. Souvent, les rôles de mères au cinéma sont quand même carrément, on peut le dire... un peu chiant parce qu'elles n'ont pas d'existence propre, elles sont
là. Ça dépend, là, au cinéma, en salle depuis aujourd'hui, il y a Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan et Leïla Bekti incarnent une mère fantastique.
Voilà, quand c'est des rôles, disons, plus importants, le rôle est étoffé, il représente quelque chose. Mais quand c'est des petites, vous voyez ce que je veux dire, des petites interventions informatives pour montrer que le héros principal a une mère, donc
on parle de l'homme.
Dans ses casseroles.
Parce que la mère dans Boule et Bille est pas mal, quand même.
Et vous, William, vous attendez quoi comme rôle? Puisque entre deux latés.
Quoi? Non, je serais pas du tout.
Vous avez envie de rien pour un 2025 sans bailler?
Non, mais si, des rôles intéressants.
C'est quoi votre définition d'un rôle intéressant?
Ah, bah que. C'est plein de choses.
Que vous n'avez jamais fait.
C'est très vaste. Des choses, par exemple, que j'ai jamais abordées. Peut-être des choses plus dramatiques
aussi.
Ça me plaît bien, ouais.
En tout cas, vous passez par tous les états dans cette cache, tous les deux. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les caractères sont forts. La famille est forte, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vraiment multifacette, on va dire. Et avec beaucoup de poésie et surtout cet hommage tendre que l'on doit rendre à Michel Blanc, qui est totalement bouleversant dans ce film, dans ce rôle de grand-père de transmission à l'écoute de l'enfant et de ses rêves. Cette cache, c'est aujourd'hui au cinéma. Merci mille fois d'être venu, Dominique et William. Demain, ça sera Karine Tuile qui viendra nous parler d'une guerre, d'une autre forme de guerre, et d'un roman autour du monde de la politique et du cinéma aussi. Dorothée Barba, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? Bonjour.
Bonjour Nagui.